Comment devenir plus efficace, mieux gérer son temps, faire avancer ses projets? Et comment atteindre ses objectifs sans finir au bout du rouleau?
3, 2, 1.
Tu écoutes Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à devenir maître de ton temps, à booster ton succès et à créer plus de sérénité grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en efficacité. Ma mission, permettre aux entrepreneurs de réussir sans se cramer, en les aidant à construire une organisation simple et efficace. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat, et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. J'ai une confession à te faire, j'ai procrastiné la rédaction de cette introduction. Parce que l'épisode de Bye Bye Procrastination que tu viens de mettre dans tes oreilles est un peu spécial. C'est un épisode qui parle d'entrepreneuriat, de vision de la réussite, de culture de l'effort, d'équilibre pro et perso, mais c'est un épisode qui parle en fait de moi. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je partage mes meilleurs conseils sur l'organisation et la structuration pour les entrepreneurs, mais je ne parle presque jamais de moi. Pour les 3 ans du podcast, j'ai eu envie qu'on fasse connaissance et de te montrer un peu plus de l'entrepreneur derrière le podcast et de l'humaine derrière l'entrepreneur. J'ai donc demandé à Julie Danet, qui m'a accompagnée sur mon business et avec qui je travaille régulièrement, d'inverser les rôles. Dans cet épisode, c'est elle qui pose les questions, et c'est moi qui réponds. Bref, c'est une interview inversée quoi. Avec Julie, on a parlé de mon parcours d'entrepreneur, de ma vision de la réussite, de l'évolution de mon business, mais aussi de ce que j'aime faire en dehors de mon entreprise, et je partage quelques passions croustillantes qui occupent mes soirées. J'espère sincèrement que cet épisode te plaira. Bonne écoute!
Merci Claire pour ton invitation sur ton podcast Bye Bye Procrastination, mais cette fois-ci les rôles sont inversés et j'ai trop hâte de te mariner un petit peu avec mes questions. Tu m'as donné carte blanche pour pouvoir te poser toutes les questions qui me venaient en tête pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur toi. Tu n'as aucune idée des questions que je vais te poser.
Non, j'ai rien vu avant.
Je trépigne d'impatience de te les poser. Pour te donner un petit peu de visibilité, j'ai sectorisé, on va dire, deux grandes catégories au niveau de mes questions. Déjà, on va aller explorer un petit peu Claire l'entrepreneur. Et dans un second temps, on ira voir Claire l'humaine avec un grand H. Est-ce que ça te va?
Oh mon Dieu, cette deuxième partie me fait particulièrement peur. Mais ok, let's go, vas-y.
Ça va aller, ça va bien se passer. Ok, on va commencer avec une question très généraliste, mais qui, je pense, intéresse directement les personnes qui nous écoutent. Pourquoi t'es là, Claire? Pourquoi tu as lancé ton entreprise? Pourquoi tu... qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme impact sur le monde?
Je trouve que c'est une question qui est hyper difficile. En tout cas, pour moi, c'est hyper difficile de répondre à cette question parce que je suis assez intimement persuadée que quand on entreprend, il y a évidemment le pourquoi, genre quel impact est-ce que tu veux avoir sur le monde? Comment est-ce que tu veux aider les gens, etc. Mais je pense sincèrement que quand tu entreprends, il y a quand même le pourquoi principal, il est égoïste entre guillemets. Donc je vais commencer par le pourquoi égoïste et puis après on va passer sur le pourquoi est-ce que je suis coach en organisation parce qu'en fait c'est de ça dont on parle. Mon pourquoi égoïste c'est tout simplement que je me reconnaissais pas dans le salariat, j'avais l'impression d'être systématiquement dans des structures ou en tout cas dans des dynamiques qui me demandaient de pas être moi-même, tu vois, complètement. J'avais l'impression d'être systématiquement en train de renier un certain nombre de mes valeurs. En tout cas, j'avais l'impression de ne pas jouer selon des règles du jeu qui me convenaient. Et ça, du coup, ça a été une source de frustration et de pas mal de souffrance quand j'ai été salariée. Et puis, du coup, de fil en aiguille, j'en ai déjà parlé sur pas mal de podcasts, mais j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation parce que j'étais pas outillée, tu vois, au démarrage de ma vie professionnelle sur ça. Et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage et en fait, je me suis laissée entraîner en comprenant la puissance de l'organisation et... Je dirais que je suis devenue entrepreneur un peu par opportunité, c'est-à-dire que j'avais pas prévu le truc à la base. À la base, tout le contenu que je partageais, c'était plutôt un hobby. Et en fait, c'est devenu un business parce que justement, il y avait cette frustration dans le salariat qui créait beaucoup de friction. Donc ça, c'est mon pourquoi très personnel et puis mon pourquoi très égoïste du coup. Mais encore une fois, je suis assez persuadée que quand t'es entrepreneur, il y a quand même un côté égoïste. Et j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent en vrai à explorer cette partie-là parce que je pense qu'elle est tout aussi importante que le pourquoi est-ce qu'on est entrepreneur pour l'impact qu'on veut avoir sur le monde.
Totalement.
Et évidemment que j'ai envie d'avoir un impact sur le monde. Je pense que l'impact, j'en parle assez peu ici, mais tu vois, c'est quelque chose qui est venu avec le temps et aussi avec... l'affinage entre guillemets de ma position par rapport à la productivité, à l'organisation, à la performance de manière générale, je pense que mon pourquoi, il est évidemment déjà humain, c'est-à-dire j'ai sincèrement envie que les entrepreneurs qui aujourd'hui ont un business, qui sont les esclaves de leur business, trouvent des solutions et des portes de sortie pour arrêter de subir cette situation-là et s'épanouir en fait dans les différents domaines de leur vie, c'est-à-dire s'épanouir dans leur business, j'arrête d'être sous le rouleau compresseur en permanence, mais aussi du coup s'épanouir dans d'autres aspects de leur vie qu'ils ont peut-être un petit peu mis de côté au profit de leur vie professionnelle. Donc ça, c'est le pourquoi humain. Et puis je crois qu'il y a aussi, au fond, une espèce de pourquoi politique, tu vois, de j'ai pas envie de vivre dans un monde où la valeur des humains se résume à leur performance, où la valeur des humains se résume à un chiffre d'affaires, à un nombre d'heures travaillées. C'est pas ma vision, tu vois, c'est pas ma vision de la réussite, c'est pas ma vision d'un monde idéal et d'un monde apaisé. Et du coup, je pense qu'il y a un peu ce côté, ouais, derrière, au fond, un peu politique, même si c'est pas quelque chose sur lequel je vais communiquer, parce que je pense que c'est aussi assez intime, tu vois, comme conviction, et que chacun voit midi à sa porte, comme midi à sa porte. Mais je vois au fil, tu vois, de mes contenus, ce fil rouge se dessiner au fur et à mesure. Et du coup, on s'éloigne un peu de la question initiale, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très fort dans le fait de d'écrire, de créer du contenu régulièrement, de partager très régulièrement, c'est que finalement, ça façonne aussi ta pensée, ça façonne aussi ta manière de voir le monde et ça affine en fait tes idées. Et ça, je trouve ça ultra puissant.
Ouais, bon, alors j'ai envie de rebondir sur tellement de choses, mais il va falloir que je me canalise un petit peu. Mais il y a un truc quand même que je voudrais peut-être te mettre en avant, c'est que tu as dit à un moment, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat parce qu'il y avait opportunité, mais c'est l'opportunité que toi, tu t'es créée, même si tu as l'impression que, tu vois, ça s'est fait naturellement parce que toi, tu as juste partagé pour le kiff au départ.
Bien sûr.
C'est quand même toi qui, de fil en aiguille, a fait en sorte que bah, aujourd'hui, tu es là, tu as un business qui tourne et tu œuvres justement à pourquoi tu es là pour toi et aussi pour les autres.
Complètement. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui a été un cheminement dans ma posture et dans la manière dont je me perçois moi-même, c'est que je pense que j'ai longtemps été dans une position un peu « ça m'est tombé dessus, quel merveilleux hasard, quelle chance incroyable
ouais. ».
Et je suis persuadée qu'il y a quand même un facteur chance en vrai qui joue parce que je suis arrivée, je pense, au bon endroit, au bon moment, avec des sujets, en l'occurrence quand j'ai démarré, je parlais beaucoup de bullet journal qui était un sujet ultra porteur à l'époque et du coup c'est, tu vois, ça m'a donné entre guillemets l'élan dont j'avais besoin. Mais je prends conscience de plus en plus et je crois que j'assume de plus en plus le fait de dire mais en fait merci à la Claire de ces 6 dernières années, tu vois, de me serrer un peu la main genre bravo meuf,
good job,
t'as peut-être pas fait que n'importe quoi et quand même il y a un facteur travail qui est là et un facteur persévérance qui n'est pas négligé.
C'est chouette que t'arrives à t'en rendre compte. Et je rebondis sur une autre chose que tu as dit, t'as dit que justement quand tu étais dans tes jobs salariés, ça répondait pas à tes valeurs et que c'était ça qui venait te heurter et c'est ça qui t'a mis une petite graine finalement pour te dire « Ok, je vais faire autre chose ». Et si justement tu devais me partager 3 grandes valeurs pour toi qui sont indispensables, des choses qui sont vraiment tellement importantes pour toi que tu construis tout autour de ça, ce serait quoi ?
Je pense qu'il y a une valeur, alors t'appelles ça bienveillance, t'appelles ça gentillesse, t'appelles ça comme tu veux. J'aime bien le mot bienveillance parce que je pense qu'il recouvre sincèrement cette valeur-là, mais il est tellement galvaudé que je ne sais pas si c'est encore très pertinent de le...
Tellement. C'est vrai. En même temps, toutes les valeurs, j'ai l'impression qu'elles ont été pourries jusqu'à la moelle.
Exactement. C'est genre vraiment, genre maintenant tu dis un truc, t'as l'impression de te retrouver dans un post LinkedIn obscur, enfin tu vois, en mode écrit avec les pieds. Donc
ça.
Je pense qu'il y a une valeur de bienveillance. Je pense qu'il y a une valeur sur laquelle je suis un peu ambivalente, mais d'exigence aussi. D'exigence envers moi-même, d'exigence aussi envers les personnes que j'accompagne, parce qu'en fait, je trouve que c'est important d'être exigeant quand même, dans une certaine mesure. Et du coup, c'est aussi pour ça, tu vois, qu'il y a une espèce d'ambivalence, c'est que bienveillance et exigence, des fois, tu te dis, où est-ce qu'on met le curseur entre les deux ? Parce que l'exigence peut aussi faire appel à des choses qui, sur le papier, peuvent un peu aller contre la bienveillance. Donc je pense qu'il y a de la bienveillance, exigence et simplicité. Genre franchement, la simplicité, pour moi, c'est tellement important, mais sous toutes ses formes, quoi. Les plaisirs simples de la vie, les choses simples, la simplicité d'un système. Je trouve qu'il y a vraiment de la beauté dans la simplicité. Et c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur.
Trop chouette. Et... ayant travaillé avec toi et te connaissant depuis maintenant, waouh, longtemps, ça fait presque 2 ans qu'on se connaît, je viens de réaliser, c'est 3 choses que tu incarnes.
Je pense que pour les gens qui nous écoutent, ils se disent 2 ans, ça fait longtemps, non mais elles se prennent pour qui, tu vois? En fait, 2 ans en vie d'entrepreneur, c'est comme les vies de chat, je pense que tu multiplies par 7.
C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai l'impression, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'on a commencé à travailler ensemble hier, en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que pour moi, ça me paraît long. Mais effectivement, à une échelle humaine, c'est que dalle, mais quand même. Et du coup, je trouve que tu incarnes pleinement ces trois valeurs. Et surtout la dernière, parce que c'est quelque chose que tu répètes souvent, que tu es une flemmarde. Et que du coup, tu as besoin de cette recherche de simplicité dans tout ce que tu fais pour justement venir te conforter dans ce côté flemmarde.
Mais moi, je suis persuadée que les flemmards sont presque les personnes les plus efficaces, puisque le principe d'un flemmard, c'est je veux faire le moins d'efforts.
En faire le moins possible.
Pour un maximum de résultats. Qu'est-ce que c'est que la productivité et l'efficacité et l'efficience? Je veux faire le moins d'efforts pour avoir un maximum de résultats. Donc c'est quelque chose, pareil, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel j'insiste spécialement, et je sais pas si c'est très vendeur en vrai de mettre cette étiquette flemmarde. Mais oui, en fait, j'aspire pas à travailler toujours plus, à faire toujours plus, à me mettre toujours plus d'injonctions, de contraintes, etc. Non, en fait, moi, ma seule préoccupation dans la vie, encore une fois, c'est une préoccupation tout à fait égoïste, mais c'est de kiffer, en fait, c'est d'avoir du plaisir dans ce que je fais, que ce soit dans mon travail ou ailleurs.
Totalement. Et justement, pour passer ces messages, donc on est sur ton podcast Bye Bye Procrastination qui existe depuis 3 ans maintenant. Pourquoi ce podcast il est important pour toi et pourquoi tu l'as lancé?
En fait, je pense que j'ai lancé mon podcast parce que je me suis moi-même abreuvée de tellement de contenus gratuits qui ont changé ma vie que j'avais envie de pouvoir transmettre ça au-delà des articles que je publiais à l'époque sur mon blog. Je te donne un exemple tout bête, on va rentrer dans ma vie privée, mais je ne sais pas faire autrement que m'occuper avec mes mains, tu vois, sur mon temps personnel et tout. J'ai vraiment ce besoin d'être dans la matière, entre guillemets, sur plein d'activités différentes. Et du coup, typiquement, j'ai appris à coudre. Mais j'ai pas appris à coudre en mode, j'avais un professeur qui m'a appris à coudre. J'ai appris à coudre en mode, j'ai ouvert YouTube, j'ai tapé comment coudre. Et j'ai appris à coudre, tu vois. Okay. Et il y a ce côté, je trouve, hyper magique avec Internet de... Tu peux transmettre tellement de choses et tu peux avoir un impact de ouf sur la vie d'autres personnes juste en partageant du contenu. Et voilà, et donc ça, c'était déjà le premier objectif. Deuxième objectif, en fait, ça me faisait kiffer. Encore une fois, hein, on revient à la même notion de plaisir, mais j'ai toujours pris du plaisir à écrire, à transmettre et tout. Donc j'avais envie de retrouver ça sous un autre format que le format purement écrit blog. Et puis le troisième objectif, et je m'en cache absolument pas, j'avais aussi un objectif de développement business, en fait. Mon podcast aujourd'hui, c'est un canal d'acquisition pour mon entreprise, c'est un canal de visibilité pour mon entreprise, je l'assume à 100%, et je considère que ce que je partage sur le podcast, c'est déjà hyper aidant pour plein de gens. Si on a envie d'aller plus loin, si on a besoin d'un cadre un petit peu plus fort, entre guillemets, si on a envie d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé, on peut aller plus loin, mais il n'y a pas d'obligation.
Et pourquoi t'as pris ce nom Bye Bye Procrastination?
Très bonne question. Je saurais même plus te redire comment est-ce que ça s'est passé, le processus de choix du nom. Je me rappelle avoir fait une espèce de shortlist de noms et j'avais posé la question à des amis, tu vois, de savoir qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce qui... Voilà. Et en fait, le Bye Bye Procrastination, c'était la proposition que je préférais. Et je trouvais ça ultra, ultra prometteur, tu vois. Genre, ça te vend un peu du rêve, quoi. Clairement. Genre, ah ouais, je vais dire bye bye à la procrastination. Alors, spoiler alert, pour les gens qui nous écoutent, je le dis, je le répète depuis maintenant 3 ans dans le podcast, on n'enlève pas complètement la procrastination de sa vie. On la réduit, on trouve des stratégies pour la diminuer, on s'outille pour y faire face, mais on ne l'enlève pas. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est si grave? Pas du tout.
Non, on est des êtres humains, paraît-il.
Il paraît, ouais.
Et justement, parlons d'êtres humains. C'est quoi... Alors, on reste quand même sur Claire l'entrepreneur, mais j'ai envie de savoir, c'était quoi ta plus grande peur en étant entrepreneur? C'est quoi qui a été compliqué pour toi à mettre de côté ou à faire face? Je ne sais pas quelle stratégie tu as adoptée, mais pour avancer vers tes objectifs avec ton entreprise The Minimal Plan.
Je pense que ma plus grande peur, et c'est une peur qui perdure aujourd'hui, c'est de décevoir les autres et notamment de décevoir les clients. Et c'est un peu ce que je te disais, tu vois, sur le côté exigence. J'ai toujours, je pense, une bonne petite couche de syndrome de l'imposteur qui est là et qui me dit tout le temps c'est pas assez bien, c'est pas, tu vois, c'est, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup retenu, je pense, de lancer des projets, de voilà. Ça m'a aussi beaucoup retenu de communiquer sur mes offres, ce que je pouvais, ce que je pouvais offrir, comment est-ce que je pouvais aider les gens, parce que du coup, quand tu considères que c'est jamais assez bien, bah tu te dis que t'es pas légitime en fait à faire ce que t'es en train de faire. Donc il y a vraiment cette question de la légitimité qui m'a énormément impactée et qui est aujourd'hui encore un work in progress, j'ai envie de dire, dans ma petite tête d'entrepreneur. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, ma plus grande peur, je pense qu'il est ultra classique quand t'entreprends, et notamment quand t'entreprends comme moi, la fleur au fusil, en mode « Wouhou, let's go !» C'est la peur financière. J'avais vraiment des énormes blocages sur ça. J'en ai parlé récemment, d'ailleurs, dans un épisode de podcast qui sortira bientôt sur Bye Bye Procrastination. Mais ouais, la peur financière, le côté insécurité, en fait. Genre vraiment... Je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas les épaules de me dire « je vais réussir à gagner ma vie avec mon entreprise ». Et je pense qu'il y a aussi un peu d'historique, tu vois, de mon entreprise par rapport à ça. Le fait que ça ait commencé comme un hobby et que ça se soit transformé en business, c'est trop bien parce que du coup, ça part d'un endroit d'intérêt et de plaisir très fort chez moi. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que j'ai mis longtemps avant de comprendre que business, c'est pas un hobby, les amis. C'est-à-dire que tu te concentres pas sur les mêmes choses quand tu gères un business et quand t'as un hobby.
Clairement. Et comment t'as fait alors pour surmonter ces deux peurs? Alors j'ai bien compris qu'elles étaient encore un petit peu présentes quand même, qu'elles venaient te faire coucou.
Ouais. On a des petites couches à continuer de peler, ouais.
Mais j'ai envie de dire que c'est un travail qui est infini. Quand t'as commencé en plus à travailler sur tes peurs, etc. Ça peut durer très longtemps. Et puis ça revient sous d'autres formes, ça vient te chercher à d'autres moments. Mais du coup, toi, c'est quoi la stratégie que tu adoptes pour quand même continuer à avancer vers tes objectifs?
Deux stratégies. Première stratégie, je travaille sur mon mindset, notamment en me faisant accompagner. Donc pas de scoop. Tu m'as accompagné pendant un petit moment en 2022. Je continue de me faire accompagner régulièrement pour justement désamorcer ces petites bombes à retardement que mon cerveau se fait un malin plaisir à mettre sur mon chemin. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, moi, je suis assez persuadée que le travail de mindset, il a d'autant plus de puissance quand tu l'accompagnes d'outils très concrets. Et du coup, les outils concrets, en l'occurrence, c'est que je mesure beaucoup plus de choses dans mon business. C'est-à-dire que je remets du rationnel là où l'émotionnel peut prendre du dessus. Je pense par exemple à la dimension financière. Et ça fait aussi partie des choses que j'ai retenues de notre travail ensemble et que tu m'as transmis. Donc encore merci pour ça, parce que ça a eu un énorme impact dans mon business. C'est tout con, hein, mais genre les gars, faites un Excel avec le prévisionnel de votre chiffre d'affaires pour vous donner des objectifs, etc. Et je sais que ça peut paraître lunaire pour plein de gens qui sont déjà, tu vois, entrepreneurs depuis longtemps, ou alors qui sont passés par un cursus académique qui leur a transmis ces trucs-là, mais moi, c'est pas mon cas, tu vois, j'ai pas fait une école de commerce, voilà. Donc, un prévisionnel, j'en avais entendu parler, mais j'ai mesuré la puissance du truc à partir du moment où je l'ai mis en place dans mon business. Donc, je dirais que, pour moi, le travail, il se fait vraiment sur... faut l'attaquer par deux bouts, tu vois. Le côté vraiment mental et vraiment le côté très pratico-pratique qui va venir soutenir l'effort côté mindset.
Je ne peux que approuver tout ce que tu es en train de raconter. Et il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont entrepreneurs et qui ont des tableaux Excel pour suivre leurs chiffres.
Mais tu sais que je m'en rends de plus en plus compte. Du coup, au fur et à mesure que j'accompagne les entrepreneurs, je me rends compte en fait à quel point est-ce que ce truc-là qui aujourd'hui est un indispensable, un indéboulonnable de ma gestion d'entreprise est presque une nouveauté, voire quelque chose dont on n'a jamais entendu parler pour d'autres entrepreneurs, voire des gens plus avancés, entre guillemets, que moi, ou qui ont un business plus gros à gérer, quoi.
Clairement, c'est pour beaucoup la même chose, et surtout quand t'as la peur de cette insécurité financière, parce que justement, tu veux pas regarder ce qui se passe. Mais bref, on pourrait faire tout un épisode là-dessus. Et dernière question sur cette partie entrepreneur, c'est quoi le truc le plus inavouable que tu peux nous partager?
Mais tu vas me... Enfin, genre, on va avoir un blanc de 10 minutes sur la piste et tu vas me laisser réfléchir. C'est quoi le truc le plus inavouable que j'ai envie de partager? Je pense que le truc le plus inavouable, ou en tout cas que personne n'a envie d'avouer, c'est que mon business n'est pas parfait, tu vois, qu'il y a plein de choses qui sont pas parfaites dans mon business. Il y a plein de choses qui demandent de l'optimisation, qui demandent de l'amélioration. Et voilà, et personne n'a envie de montrer ce côté-là de soi, je pense, d'autant plus quand t'es dans une position d'accompagnant pour d'autres entrepreneurs. Donc, si vous vous posez la question, mais comment fait-elle pour avoir un système d'organisation si parfait ? La réponse est, mon système d'organisation n'est pas parfait. En revanche, mon système d'organisation me permet de faire ce dont j'ai besoin. Et ça, je trouve que c'est une grosse nuance à apporter.
Ok, je viens de découvrir que Claire, coach en organisation, n'avait pas une organisation parfaite, mais quelle horreur !
Ouais, est-ce que ton monde est en train de s'écrouler autour de toi ? Peut-être.
Totalement, je te regarde différemment, c'est certain. Alors maintenant que nous avons parlé de Claire l'entrepreneur, je te propose de se tourner vers, enfin de nous tourner plutôt, vers Claire l'humaine. Et j'ai envie de commencer par te demander, c'est qui Claire quand on lui enlève l'étiquette coach organisation et structuration ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?
À chaque fois qu'on me pose la question, je la trouve difficile. Et tu vois, je me dis au fur et à mesure du temps, ça va s'éclaircir et c'est juste que plus tu réponds à la question et plus ça devient facile. Je pense que factuellement, plus tu réponds à la question, plus la réponse standard, entre guillemets, devient facile. Mais moi, j'ai l'impression que cette question-là, genre, qui est-ce que je suis ? Il faudrait presque une vie pour y répondre, tu vois. Genre, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est capable de te répondre comme ça ? Qui il ou elle est ? Je sais pas. Bref, moi, c'est des questions que je trouve hyper, en vrai, hyper profondes et qui me font un peu flipper, on va pas mentir. Quand je me suis formée pour être coach, ça faisait partie des questions que j'avais très, très envie d'éviter. Parce que je les trouve difficiles. Mais du coup, si je dois répondre en faisant une petite liste des trucs qui me caractérisent et qui pourraient, si on les prend dans leur ensemble, faire de moi, moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez calme, de plutôt posé. Je ne suis pas quelqu'un de très extravagant, tu vois, de très extraverti de manière générale. Je suis plutôt créative. Genre, j'aime bien imaginer des nouvelles choses, mettre en œuvre des nouvelles idées. Je suis aussi... J'aime beaucoup travailler avec mes mains, tu vois, genre faire de la couture, tricoter, etc. Bref, plein de petites activités créatives, voilà. J'apprends assez vite, je suis quelqu'un qui est très autodidacte. Et je pense que les gens qui m'entourent diraient aussi que je suis quelqu'un d'assez affirmé, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que je suis à la fois, je pense, très bienveillante dans la manière dont j'interagis avec les gens et je peux paraître très douce, mais... Je sais ce que je veux, je sais affirmer mes opinions et dire quand je suis pas d'accord. Et ça, je pense que ça peut un peu surprendre les gens, tu vois.
Ouais.
De genre en mode, il y a un petit switch qui se fait et tout d'un coup, je deviens quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, peut-être que les gens peuvent avoir cette image de moi, de, enfin, pas influençable, mais tu vois, très douce et du coup très consensuelle. Et en fait, je pense que je suis pas aussi consensuelle que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, dans... Voilà, avec les, enfin, dans des circonstances dans lesquelles je me sens suffisamment à l'aise pour le faire. Voilà, que, quoi te dire d'autre si je suis quelqu'un de très introverti. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie de mon mode de fonctionnement. Je pense que, de prime abord, on peut imaginer que je suis quelqu'un d'assez froid. Et d'ailleurs, on m'a déjà fait la réflexion, tu vois. Que ce soit dans le monde professionnel ou même dans mes interactions personnelles, on m'a déjà dit... bah franchement, la première fois que je t'ai rencontrée, je t'ai trouvée froide, voire on m'a déjà dit je t'ai trouvée hautaine. Le choc. Et je comprends ça. Et en fait, je pense que les gens méprennent le fait que moi, je sois mal à l'aise pour un comportement hautain, alors que c'est juste que c'est moi qui suis pas à l'aise du tout dans l'interaction et pas la personne en
c'est
face.
C'est ta façade, quoi.
Exactement. Et c'est juste une manière, je pense, de me protéger. Donc déjà, si tu nous écoutes et que on a eu l'occasion d'interagir et que tu m'as trouvé froide et hautaine, alors peut-être que c'est juste que tu m'aimes pas et c'est complètement ok.
Ouais, c'est possible.
Non, mais c'est vrai, on n'est pas tous faits pour tous s'aimer, tu vois.
Exactement.
Mais le plus probable, c'est que je me suis sentie mal à l'aise, j'ai pas osé, enfin voilà, bref, je suis un peu cette meuf-là. Mm. Et je crois que je suis quelqu'un aussi d'assez paradoxal. Mm-hmm. Genre, je suis pleine de contradictions. Et ça, je te dis ça parce que mon mec, il me fait hyper souvent la réflexion de me dire,
okay.
Non mais en fait, je pensais que A et toi non, en fait, t'es B, tu vois. Et ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble. Et tu vois, j'ai l'impression que ces contradictions ne cessent de l'étonner, alors que c'est la personne qui me connaît au final le mieux, tu vois. Je suis vraiment la meuf qui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais j'adore regarder des séries nulles, genre les teen dramas, c'est ma vie, tu vois. Tu mets un 13 Reasons Why ou un Vampire Diaries, je suis à fond. Et en même temps, je suis la fille qui a l'impression d'être née en ayant 70 ans à ma naissance, tu vois. J'ai tout le temps des expressions. D'ailleurs, on me fait aussi souvent la réflexion, j'ai des expressions un peu de grand-mère, un peu datées, tu vois. Des fois, tu te dis, mais d'où est-ce qu'elle sort ça ? Au secours. Donc voilà. Donc j'ai tu vois, c'est voilà, c'est un peu ça, les extrêmes qui cohabitent pour le meilleur comme pour le pire.
Mais c'est génial, ça fait une richesse incroyable du coup. Ça c'est trop chouette.
Écoute, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que c'est.
En tout cas, tu n'es pas une personne lisse de ce que je vois et de ce que je comprends. Et de ce que je connais.
Ça, je sais pas, c'est difficile de se juger soi-même, mais voilà.
Et tu as dit rapidement que les personnes qui te connaissent autour de toi peuvent dire que tu es une personne affirmée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils racontent sur toi ? Comment ils te décrivent, tes amis ?
Ben, je pense, comme je te l'ai dit, tu vois, quelqu'un d'assez calme, d'assez créative, c'est ce que je te disais. On m'a souvent fait le retour que je pouvais paraître froide. Mais qu'une fois que la glace était brisée, en vrai, je suis assez sans filtre quand je suis avec des gens que je connais bien et avec qui je me sens à l'aise, quoi. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire.
Et c'était quoi ton rêve d'enfant ?
Mon rêve d'enfant, alors je pense que comme n'importe quel enfant, j'ai changé de rêve tous les deux jours, ou presque. Moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être vétérinaire.
Okay.
Genre, tu sais, soigner les animaux et tout. J'ai rêvé d'avoir un chat pendant des années. Et j'ai fait du lobbying auprès de mes parents jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer, tu vois, et que j'ai un chat. Et puis après, quand j'ai eu un chat, bah, ça a renforcé, en fait, mon envie d'être vétérinaire.
Okay.
Et en fait, j'ai abandonné ce truc-là parce que... Donc, je me suis accrochée à ça, je pense. Enfin, on dit rêve d'enfant, je pense que c'est plus rêve d'adolescent, tu vois. Rêve d'enfant, ouais, j'en ai eu plein, mais je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Et tu vois, je me suis accrochée à ce rêve d'être vétérinaire pendant assez longtemps. Et je pense que rêve était le bon terme, on va dire que c'était plus un fantasme, tu vois. Et en fait, quand je suis rentrée au lycée, du coup, je suis rentrée en première S avec cet objectif.
Okay.
Vraiment, j'étais en mode focus, quoi, tu vois. Mon goal, c'était, ok, je rentre en première S, je tape les meilleures notes possibles pour derrière décrocher la prépa vétérinaire. En prépa vétérinaire, enfin, tu vois, genre, je m'étais fait une autoroute dans ma tête, toi. Et en fait, quand je suis rentrée en première S, je me suis confrontée à un truc qui était... les matières scientifiques très théoriques. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper théorique. Et en fait, j'avais pas spécialement... Enfin, je suis quelqu'un qui a toujours été très scolaire, donc c'était pas tellement une question de résultats, tu vois, où je me disais, bah, je vais pas avoir des résultats suffisants pour rentrer en école vétérinaire et du coup, autant que je change mes objectifs maintenant parce que je vais pas les atteindre. Mais c'est vraiment ce truc de... T'es en cours de maths et t'as 3 heures de cours de maths et c'est 3 heures pendant lesquelles tu fais des démonstrations avec des intégrales et des machins et des trucs. Et moi, je suis quelqu'un qui aime le concret, le tangible, le, tu vois, genre le terre à terre, quoi. Donc, tu me mets devant une feuille où faut faire une démonstration pendant 3 heures et personne ne m'a expliqué à quoi ça va me servir concrètement dans la vraie vie. Genre, je lâche l'affaire.
Je comprends.
Autant tu me fais faire de la géométrie appliquée, tu vois, tu vas me dire, bah, tu vois, là, ton théorème de Pythagore, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire ça ou ça, pour construire des trucs. Bon, là, je comprends, j'adhère. Et à la limite, je me dis, ça va pouvoir me servir dans la vie. Pourquoi pas ? Faire des démonstrations de A au carré plus B au carré égale je sais pas quoi, mais au secours, quoi. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, si c'est faire ça pendant, du coup, mes années de lycée et en plus la prépa veto derrière, genre, non, je serais pas vétérinaire, quoi. Et c'est pas grave.
Ouais. Et finalement, t'as fini quand même ton bac S ?
Ouais, j'ai fini mon bac S. En fait, quand je suis rentrée en première S... genre en novembre, je pense, un truc comme ça, j'étais vraiment dans une phase de déprime hyper forte parce que ça me plaisait pas. Ça, en fait, ça piquait pas ma curiosité. Et j'adore apprendre, mais j'adore apprendre des trucs que je trouve qui piquent ma curiosité, tu vois, et voilà. Et donc, du coup, j'avais pas cette curiosité-là. Et je me rappelle qu'on avait pris rendez-vous avec mes parents chez la proviseure de mon lycée pour voir si je pouvais repasser en bac L, du coup, en cours d'année. Et en fait, la conclusion du rendez-vous, ça a été, bah, factuellement, c'est possible, mais bon, bah, déjà, il faudra fournir beaucoup de travail pour rattraper les 3-4 mois de cours qui sont déjà passés. Et surtout, un bac S, ça permet d'avoir un éventail de possibilités après le lycée qui est probablement plus grand qu'un bac L. Parce que du coup, une fois que tu as dit « je veux pas être vétérinaire », la question suivante, c'est « ok, bah, du coup, tu veux faire quoi, tu vois ?» Et comme la réponse, je l'avais pas, je pense comme beaucoup de gens qui ont fait S un peu par défaut au lycée parce que justement, tu sais pas ce que tu veux faire et que du coup, on te dit, c'est ce qui t'ouvre le plus de portes. Bah voilà, j'ai été cette personne complètement standard.
T'inquiète, on fait partie de la même team.
qui a fait un bac S pour avoir le plus de portes ouvertes derrière.
Bac S, s'il y a des personnes très jeunes qui nous écoutent, ça n'existe plus.
Ah oui, c'est vrai que ça a été complètement remanié.
Ouais, je ne sais pas ce qui a remplacé ça, mais en tout cas, ça n'existe plus. Mais bref.
Donc c'est un bac scientifique où en gros tu fais des maths, de la bio et de la physique. Voilà.
Tout à fait. Donc oui, tu t'es dit stop, veto, c'est pas mon truc. Et à quel moment du coup t'as eu le déclic de te dire en fait je vais faire autre chose et où t'as trouvé un peu plus ta voix du coup?
Bah, je pense assez rapidement parce que en parallèle de mon rêve d'être vétérinaire, j'avais aussi une pratique artistique, on va dire, assez intense en dehors des cours. Tu vois, j'avais une option art plastique pour mon bac, donc j'avais une après-midi d'art plastique par semaine au lycée. J'avais des activités extrascolaires qui étaient autour du dessin, du modelage, des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit que c'était potentiellement une piste à explorer. Et quand je me suis dit « Ok, je veux pas être vétérinaire et du coup, je ferai pas de prépa veto », je me suis dit « Bah, je vais quand même essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles pour rentrer dans une école de design un peu cool ». Donc en fait, assez rapidement, le plan A, c'était veto. Et je pense que dans ma tête, même si je pense qu'à l'époque, je l'aurais pas formulé comme ça, le plan B, c'était de faire des arts appliqués. Donc je sais pas, à la base, je pensais faire du graphisme. Et au final, j'ai fait une école de design produit. Donc alors, c'est pareil, je ne sais même pas si ça existe encore, cette filière, parce que le design produit, c'est pour les gens qui vont dessiner des tables, des téléphones, enfin des produits physiques, on va dire. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc, je suis designer diplômé, qui n'a jamais fait de design de sa vie. Mais écoute, c'était quand même des études hyper cool et qui, pour le coup, m'ont beaucoup nourri en termes de créativité, d'autonomie aussi, parce qu'on était très très autonome dans les études. Voilà, ça m'a permis de développer plein de compétences très cool, y compris des compétences, encore une fois, un peu malgré moi et au forceps, mais un peu des compétences de gestion de projet aussi.
Ok, très bien. Mais finalement, l'appétence pour le manuel dont tu nous parlais tout à l'heure, tu l'avais déjà depuis un certain temps, quoi. C'est juste que tu l'as pas tout de suite mis en lumière de manière centrale, quoi, dans ce que tu faisais, quoi.
Et pour le coup, c'est vraiment pour moi un fil conducteur, je pense. Tu vois, maintenant qu'on en discute, presque depuis que je sais faire des trucs de mes 10 doigts, je pense que j'ai toujours eu cette appétence pour travailler avec mes mains. Alors aujourd'hui, mes mains, elles tapent beaucoup sur un clavier, mais elles font aussi plein d'autres trucs à l'extérieur de mon business. Et ça fait vraiment partie de mon équilibre.
Ok, trop chouette. Et je saute totalement sur un autre sujet. Mais si tu avais un pouvoir, ce serait quoi comme pouvoir? Genre, t'es une super-héroïne, ce serait quoi ton truc?
Bon, on va être très honnête ici. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez anxieux. Et je suis pas la personne la plus audacieuse de la Terre, tu vois.
Okay.
Genre vraiment, si tu me dis pas... T'inquiète, tu vas sauter, mais il y a 3 filets en dessous, un matelas, 5 parachutes. Je suis pas hyper à l'aise. Et donc du coup, je pense que le pouvoir que j'aimerais trop avoir, ce serait de pouvoir charger une version précédente de ma partie, tu vois, mais dans la vie. Tu vois, dans les jeux vidéo, tu sais, genre t'es dans Zelda et tu dis « charge-moi à il y a 1 heure, tu vois, j'ai fait 1 heure de jeu, je me suis plantée, j'ai fait des choix nuls. »
Tu fais une sauvegarde.
Exactement, je veux charger la sauvegarde précédente. Bah ça, ce serait trop stylé en vrai, dans la vraie vie. De pouvoir charger la sauvegarde précédente. Et tu vois, justement, si on fait le point un peu avec les études de design, moi, j'étais une obsédée de l'enregistrement incrémental quand j'étais en études. Tu vois, du truc de ton fichier, tu l'as dans 150 versions qui constituent l'historique entier de ton processus créatif, parce que comme ça, si t'as pris la mauvaise piste ou que t'as fait un mauvais choix à un moment, bah, tu peux revenir au carrefour et prendre l'autre truc. Alors, je sais pas si en vrai ce serait aidant ou si ce serait juste dramatique dans la vie de pouvoir tout le temps faire CTRL-Z et revenir en arrière, j'en sais rien. Mais je pense que dans un certain sens, ça m'aiderait à être peut-être un peu plus audacieuse, à prendre plus de risques.
Et si t'avais justement ce pouvoir là maintenant tout de suite, ce serait quoi le premier risque que tu prendrais?
Mais je sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler, parce que ça fait partie des projets qui... Enfin, tu vois, genre moi, j'arrive pas à parler de mes projets ou de mes envies avant que la graine, elle est germée. Je sais pas comment dire. Surtout qu'en plus, pour les gens qui nous écoutent, du coup, c'est plutôt des projets professionnels. Je sais pas si... j'ai pas envie de m'avancer, en fait. Donc, sachez que j'ai des petits tiroirs à graines avec des graines qui germent tranquillement là. Et quand je me sentirai prête à les planter, elles seront plantées et puis je prendrai le temps de les arroser. Mais ouais, je pense qu'il y aurait des grosses évolutions, pas forcément dans mon business en tant que tel, mais plutôt ouvrir des nouveaux onglets dans ma vie professionnelle, on va dire, poursuivre des envies qui seraient probablement complémentaire, mais quand même différente de ce que je fais aujourd'hui. Voilà.
Et pour te connaître, je rajoute quand même que je sais à quel point tu as des gros sacs de graines dans ta tête et que tu as 40 000 idées sur tellement de sujets. Et franchement, quand on échange, c'est passionnant. Toujours rien à voir, tu vois, je saute du coq à l'âne sur les questions. Où est-ce que tu te sens le plus chez toi ?
Bah, ça, c'est pareil pour moi, tu vois, c'est un truc... vraiment, je suis la fille la plus standard du monde, hein, mais moi, je me sens chez moi, chez moi. Je me sens chez moi, donc j'habite à Paris, j'ai un appart à Paris dans lequel je suis depuis longtemps, et c'est vraiment un endroit qui est pour moi une safe place hyper forte, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de matérialiste à proprement parler. Par contre, j'ai besoin de repères dans mon quotidien. Et tu vois, il y a deux ans, d'ailleurs c'était pendant que t'étais ma coach en l'occurrence, je suis partie un mois à Berlin toute seule en me disant est-ce que j'essayerais pas le rêve du digital nomadisme, tu vois. Et puis j'avais un petit peu l'idée potentiellement de vivre à Berlin un certain temps. Et en fait, j'ai trop mal vécu, la ville est trop chouette, j'adore toujours autant Berlin, etc. Mais ce que j'ai pas très bien vécu, c'est le fait de pas avoir mes repères. Je suis quelqu'un, j'ai besoin, tu vois, d'un environnement dans lequel je me sens sécure. Et évidemment, c'est quelque chose qui se développe et qui se construit au fur et à mesure. Mais je suis assez lente sur ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai du mal à me sentir instantanément chez moi et bien, entre guillemets, dans un lieu. C'est quelque chose qui prend du temps pour moi. Donc je dirais que je me sens chez moi. Dans mon appart à Paris, puisque ça fait, voilà, c'est un cocon dans lequel je grandis, entre guillemets, depuis 10 ans et que voilà. Et je me sens aussi de plus en plus chez moi dans la maison que j'ai achetée avec mon conjoint à la campagne. Et là, c'est vraiment, je pense, encore un autre niveau de chez moi où je me sens très bien dans mon appart à Paris, mais je me sens pas bien à Paris. Et là, du coup, je me sens non seulement bien dans ma maison, mais bien aussi dans l'environnement, tu vois. Franchement, se lever le matin et voir le lever de soleil avec la vue sur la forêt et les chevreuils qui sortent, bah moi, ça me nourrit mon âme, tu vois. Versus, tu te lèves le matin, t'ouvres tes volets et t'as vu sur le voisin en train de fumer sa cigarette à la fenêtre.
Moi, mon délire.
Moi, mon truc.
Ah bon? T'aimes pas voir Michel à la fenêtre?
Non, mais il y a des gens, tu vois, et j'ai adoré Paris pendant hyper longtemps parce que je trouvais ça hyper stimulant, parce que c'est très vivant, que j'ai aussi toute ma vie sociale ici. Mais là, j'avoue que je crois que, tu vois, il y a une transition qui se fait et que j'ai envie de passer à autre chose. Et sur ta question, si je pouvais recharger, tu vois, ma sauvegarde, si j'avais ce pouvoir-là, je pense que je ferais un move beaucoup plus radical de « je quitte Paris ». Et si j'ai envie d'y revenir, j'y reviendrai, tu vois. Mais je pense que ça ferait partie des décisions un petit peu audacieuses que je pourrais prendre. Bon, en l'occurrence, je suis pas la seule à prendre ces décisions-là, et que du coup, tous les paramètres sont pas dans mes mains. Mais voilà. Donc je me sens chez moi finalement.
Et à terme, c'est un souhait d'habiter uniquement à la campagne dans ta maison.
Je sais pas encore parce que tu vois, c'est un truc qu'on expérimente encore. L'équilibre entre les deux, et puis c'est hyper frais comme projet, donc factuellement, la maison c'est chez moi, mais c'est pas encore un foyer, tu vois ce que je veux dire, le home en anglais, tu vois, c'est pas encore tout à fait ça, donc il y a un peu de temps à y passer. Je sais pas si je m'accommoderais, entre guillemets, des avantages de la campagne, en fait, faut prendre la voiture pour aller chercher le pain, parce que quand je dis que la maison est dans la campagne, c'est vraiment la maison qui est au bout de la petite route, qui est au bout de la petite route, qui est au bout de la petite route, tu vois. Il n'y a rien autour, il n'y a rien. Ce qui était absolument ce qu'on voulait, mais du coup qui vient avec un changement d'habitude de vie qui est très fort par rapport à Paris, où tu vois, pour les gens qui connaissent Paris, tu sors de chez toi, t'as trois boulangeries à moins de 5 minutes, bon voilà, c'est pas la même chose. Donc pour l'instant, l'idée, c'est plutôt d'équilibrer entre les deux et puis de voir comment est-ce qu'on sent les choses, quoi.
Donc ça fait partie un peu aussi des contradictions dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais, complètement.
Est-ce qu'il y a des choses chez toi que les gens ont du mal à comprendre, mais qui, toi, t'éclatent total ?
Bah, tu vois, les contradictions, typiquement, je pense que... Alors, je sais pas si c'est un truc qui m'éclate total, parce que je ne cultive pas mes contradictions comme si c'était mon identité complète. Ça fait partie de moi, mais c'est pas quelque chose que je cultive spécialement. Mais ça, je pense que ça fait partie des choses que les gens ont du mal à comprendre. Et dans les trucs qui m'éclatent, c'est pas que les gens ont du mal à comprendre, je pense que c'est plus que ça surprend. C'est que tu me vois à Paris, tu vois, je cliché, tu vois, mes petites meufs parisiennes avec son petit manteau, sa petite jupe, ses petites bottines. Et en fait, moi, mon kiff, c'est de passer mon après-midi chez Leroy Merlin à choisir le prochain perforateur burineur et ma scie circulaire, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc, pas que les gens ne peuvent pas comprendre, parce que du coup, les gens qui me connaissent, ils connaissent cette partie de moi, tu vois, et ce côté Bob le bricoleur, tu vois. Mais je pense que ça fait partie des choses qui peuvent surprendre. Mais parce que juste, c'est des questions de clichés, tu vois, de... le bricolage, c'est dans la tête des gens, c'est un peu plus un truc de mec qu'un truc de meuf. Ce que je ne cautionne pas du tout. Mon cœur de féministe saigne quand j'entends ce genre de clichés, mais factuellement, ça reste que quand je rencontre des gens et que je leur dis j'aime bricoler, peut-être ils s'imaginent que j'aime faire du scrapbooking, tu vois. Non. Enfin, pas que. Enfin, je fais pas de scrapbooking, mais tu vois, t'as l'idée, quoi.
Mais tu pourrais, en vrai.
Je sais pas. Le scrapbooking, pour le coup, ça me parle pas trop. Moi, j'aime bien les trucs, encore une fois, tu vois, concrets, terre à terre. Moi, j'aime bien quand le fruit de mon travail, il a une fonctionnalité. Donc, tu me dis, on va faire un album photo qui va rester sur une étagère. Et en vrai, on va pas beaucoup le sortir. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'investir du temps et de l'énergie dedans. Versus, on va construire une cuisine... Genre, t'achètes des planches et à la fin, t'as une cuisine. Yes, please, quoi, tu vois.
Oui, il y a un côté un peu plus excitant pour toi.
Voilà, exactement.
Ok. Et par contre, on revient pas du tout sur le fait que tu regardes Vampire Diaries.
Ah ouais, bah si, ça aussi, ça fait partie des trucs, je pense, que les gens comprennent pas et qui, moi, m'éclatent. Mais est-ce qu'on n'a pas tous un peu des guilty pleasures?
Mais bien sûr.
Qu'on assume ou qu'on n'assume pas, tu vois.
Tout à fait.
Oui, c'est sûr que si je faisais la liste des trucs que les gens, qui, moi, m'éclatent et que les gens comprennent pas, ou en tout cas que les gens seraient susceptibles de juger, oui, les teen dramas, les mots fléchés, le tricot tisane sous un plaid, enfin vraiment, tu vois, il y en a plein des choses.
Les mots fléchés.
Ouais, les mots fléchés, ouais.
On adore. Ça, c'est du croustillant comme on aime.
Mais tu vois, il y a des gens qui méditent. Et ben moi, ma méditation, c'est de faire des mots fléchés.
Ouais.
Je sais pas, ça me masse le cerveau. Et voilà. D'ailleurs, si vous avez des super grilles de mots fléchés, n'hésitez pas à me les envoyer. Chez moi, on est force 2, force 3.
Ce qui est déjà pas mal.
Voilà, c'est mon niveau actuel. On se fera un petit update dans quelques années pour voir où on en est. Mais, voilà.
Exactement. Mais au moins, tu verras les gens qui sont vraiment restés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous envoyez des mots fléchés, on sait que vous êtes des vrais. Trop chouette. En tout cas, merci pour ça. Et dernière question pour toi. Comment est-ce que tu t'es sentie pendant cet épisode?
Écoute, bien, en vrai. Ça fait du bien, je trouve, de parler de soi différemment. Enfin, évidemment, là, du coup, on a parlé business dans la première partie et c'était très cool. Je pense que d'ailleurs, j'ai dit des choses que j'ai jamais dites ou que j'ai jamais partagées. Et puis, pareil, sur la deuxième partie, je sais pas si ça intéressera les personnes qui nous écoutent. J'ai toujours ce petit doute, tu vois. Mais en tout cas, écoute, c'était un chouette moment. Et puis, on est dans une safe place aussi ici, tu vois. Finalement, je me dis pas qu'il y a peut-être genre 5000 personnes qui vont écouter cet épisode. Je me dis juste que je suis en train de discuter avec toi et du coup, ça va.
Non, mais en tout cas, c'était trop chouette de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce qu'effectivement, je trouve qu'on voit beaucoup de toi. On t'entend beaucoup aussi grâce à ton super podcast. Mais c'est chouette aussi de découvrir un peu plus de qui tu es, toi, en tant qu'humaine. Donc, c'était un vrai plaisir de pouvoir t'interviewer sur tout ça.
Mais écoute, merci à toi d'avoir joué la chef de cérémonie et d'avoir fait finalement le travail à ma place, hein, on va pas mentir.
Voilà, bah, de toute façon, on a bien compris que t'étais un peu flemmarde. Il n'y a pas de problème.
Mais c'est la meilleure stratégie, les amis, pour être efficace. La meilleure stratégie, c'est de mettre vos pantoufles de flemmard et d'essayer d'en faire le moins possible avec le maximum de résultats.
Et ce sera le bon mot de la fin. Merci à toi, Claire.
Merci beaucoup, Julie.
J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt.